Qui n'a jamais entendu parler de Saint Silouane de Latos, dont la reproduction de son icône est là? Qui n'a jamais entendu parler? Approche-toi.
Approchez-vous.
Tu me fais des signes. Approche-toi. Tu entendras mieux.
Moi, j'ai pas entendu.
Jamais. Mais il faut avoir le courage, vous savez, parce que.
Hein? Moi non, je n'ai pas entendu. Je ne connais pas.
Ma sœur, vous avez entendu parler de Saint Silouane, bien sûr, une moniale. Une moniale a entendu parler de Saint Silouane. Bien. Donc, si je veux, en 30 minutes, vous dire un petit peu la vie de ce saint moine, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans sa spiritualité, ça demanderait une deuxième conférence, peut-être on me la demandera, mais la première conférence va porter essentiellement sur sa vie. Et je voudrais, en préambule, si vous voulez, citer un moine catholique, n'est-ce pas, américain, un cistercien, Thomas Merton. Il disait de Saint Silouane de Latos, donc, peut-être découvrira-t-on que le moine le plus authentique du XXe siècle aura été le père Silouane, ce remarquable starets qui a lutté pendant des années contre le désespoir. Alors, je vais vous donner, hein, c'est une introduction à la lecture, j'ai apporté aussi quelques livres, hein, à la lecture, c'est une initiation, si vous voulez, à Saint Silouane. Hein. Qui était-il? Un peu, quelques mots sur sa vie civile. Il est né en 1866, c'est pas loin, hein, et il est décédé en 1938, c'est notre siècle. Le siècle précédent, si vous voulez, mais hein, moi je naissais une année après qu'il soit parti. Il est donc d'une famille de paysans russes, 5 garçons et 2 filles. Et ses parents étaient très pieux. Et le futur moine Silouane, qui s'appelait Siméon dans le civil, le futur moine, donc, a été marqué sa vie durant par l'attitude de son père. C'était un homme plein de douceur, de patience, de sagesse. Et si bien qu'après de nombreuses années de vie monastique, le starets Silouane dira « Je ne suis pas parvenu à la mesure de mon père ». Les études du jeune homme, elles ont été quasiment nulles, 2 hivers à l'école de son village. Alors, que faisait-il? Eh bien, il s'est engagé comme charpentier, aide-charpentier, charpentier. Il était de grande taille, avec une forte corpulence et une grande capacité de force physique. Et vous allez le voir. Dans sa jeunesse, il menait la vie des jeunes de son âge. Il jouait de l'accordéon et participait aux fêtes des villages environnants. Il aimait bien boire et manger, ce jeune homme. Il buvait 3 litres de vodka sans rouler sur la table. Et le lendemain de Pâques, une omelette de 50 œufs ne lui faisait pas peur. Et ça, c'est pas la légende. C'est vous dire que c'était quand même un homme de forte corpulence. Et c'est là, dans cette existence de jeune homme, qu'il entend pour la première fois l'appel à la vie monastique. Mais vous comprenez très bien que cet appel fut vite oublié. Et il retomba dans un genre de vie qu'il qualifia plus tard comme marqué par le péché. Et 2 grands péchés le marquèrent. Le premier, jeune homme, il coucha avec une fille. Et le deuxième, lors d'une fête de village, il se battit avec un cordonnier et il le frappa si fort qu'il faillit le tuer. Et ça lui est resté. Mais, vous le savez, nous le savons tous dans notre vie, le Seigneur est tenace. Tenace. Et dans un songe, Siloane entend une voix qu'il identifiera plus tard comme étant celle de la Mère de Dieu. Elle disait, cette voix, « Je n'aime pas ce que tu fais. » Et cela, cet épisode, de ce songe, cette voix, marqua le jeune homme. Et ça lui permit un changement dans sa vie. Mais il se livra bien au repentir. Hein. Il prit bien la décision de devenir moine, mais il resta quand même, voyez, attaché à son passé. Alors, il accomplit son service militaire à Saint-Pétersbourg et il a une très bonne influence sur ses camarades. Et tout de même, en grandissant, on devient plus sage, hein, comme vous le savez. Et peu avant la fin de son service militaire, le futur moine se rend chez le père Jean de Kronstadt, qui était donc prêtre de paroisse à Kronstadt. C'est un prêtre marié, un saint prêtre. Les gens venaient à lui, il attirait beaucoup les foules. Et quand le futur Starets Siloane va chez lui, père Jean a beaucoup de monde, mais Siloane lui laisse un billet. Il lui laisse un billet où il était mentionné ceci: « Mon père, je veux devenir moine, priez pour que le monde ne me retienne pas. » Et dès le lendemain, ça, Saint Siloane l'a dit, il sentit les effets de la prière du Père Jean. Il dit ceci, Siloane: j'entendis autour de moi gronder les flammes de l'enfer. À la fin de son service militaire, que fait le jeune Siloane, Siméon, qui s'appelait, il va tout de suite au mont Athos, et il fut admis comme novice. Nous sommes à l'automne 1892, Siloane a 26 ans. Alors là, il connut les grands et longs offices liturgiques, la prière en cellule et le travail au service de la communauté. Ce sont les trois points, les offices liturgiques, la prière en cellule et le service de la communauté, trois points auxquels se livrent les moines. Et les tentations du démon devinrent nouvelles et fortes. Et alors, il se fait aider d'un père spirituel et à l'aide d'une ascèse, d'une pénitence intense, le jeune novice connut rapidement un état de grande pureté intérieure. Et un jour qu'il était en prière devant l'icône de la Mère de Dieu, il reçut le don de la prière continuelle. Nous appelons la prière continuelle, c'est la prière de Jésus, n'est-ce pas? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et les tentations devinrent plus fortes. Le démon ne le laissait pas en paix. Alors, il intensifia sa prière, sa pénitence, et y réduisit son sommeil. J'espère avec l'assentiment de la bénédiction de son père spirituel. Et il avait reçu Siloane comme travail, comme obédience, n'est-ce pas? On dit ça dans les monastères, obédience. La direction du moulin. Et il dirigeait donc des ouvriers non moines qui venaient de l'extérieur de la Sainte Montagne, et il fallait faire face à cette époque-là, vous voyez, nous sommes donc avant 1930, aux besoins alimentaires de journaliers, de 1800 moines et de plusieurs centaines de pèlerins. C'est donc que le moulin devait tourner à plein. Et les forces du jeune moine s'affaiblirent. Et il fut environné de pensées de désespoir. Et un jour, au moment des vêpres, il eut la vision du Christ vivant. Et il se sentit alors rempli de l'Esprit Saint, illuminé de la lumière divine à la manière de saint Paul sur le chemin de Damas. Et il ressentit cette expérience comme une nouvelle naissance d'en haut. Et il fut par là assuré de la miséricorde de Dieu envers lui. La paix, la joie spirituelle vont inonder son cœur pendant quelques mois et de nouveau, durant les vigiles, la paix et la joie intérieure vont s'estomper pour faire place à une grande perplexité et à la crainte de perdre cette grâce. Et donc, une grande tristesse s'installe en lui, et alors les démons réapparurent. Vous voyez, je vous laisse dans votre esprit faire suivre ce cheminement de Saint-Silouane dont l'expérience intérieure, n'est-ce pas, est comme la courbe d'un malade. Hein. Alors, la vie du jeune moine va alterner les périodes paisibles de la visite de Dieu et celles très pénibles du sentiment d'être abandonné par Dieu lui-même. Mais cette expérience qu'il a eue de la vision du Christ le soutient et cette vision soutient à la fois sa prière et sa pénitence, qui vont être donc le lot quotidien du jeune moine durant les 15 années suivantes. Alors, une nuit, et on l'a bien daté, c'était entre 1908 et 1911. Une nuit, le moine Silouane était en prière dans sa cellule. Une cellule de moine, n'est-ce pas ? Et non pas couverte, mais d'icône, n'est-ce pas ? Et une immense silhouette s'interpose entre lui, qui est en prière, et les icônes. Et cette silhouette attendait que le moine se prosterne devant elle. Vous avez deviné qui était cette silhouette. C'était donc le démon, et avec lui une foule d'autres démons qui venaient, comme chaque fois où le moine se mettait en prière, qui venaient troubler la prière du moine. Et alors, c'est là que Silouane fait cette demande au Christ. Il lui dit, c'est important, et je vais un peu plus doucement, parce que vous allez voir la réponse. Hein, il s'adresse au Christ, Silouane, et il lui dit, « Seigneur, tu vois que je tâche de te prier avec un esprit pur, mais les démons m'en empêchent. Apprends-moi ce que je dois faire pour qu'ils ne me dérangent pas. » Et le Christ lui répond, « Les orgueilleux ont toujours ainsi à souffrir de la part des démons. » Et Silouane reprend, « Seigneur, apprends-moi ce que je dois faire pour que mon âme devienne humble. » Et le Christ lui donne ce conseil, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Et c'est souvent cette phrase qui est ici sur le rouleau que tient dans ses bras. Quelquefois, on met « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Je ne vais pas aujourd'hui vous analyser cette phrase. Je l'ai fait parce que ceci est une conférence que je conférence, si vous voulez, hein, c'est un grand mot, que je redis parce que je l'ai déjà faite à l'archevêché catholique d'Albi, et c'est pour ça que Père Roger m'a appelé, en quelque sorte. Et dans l'après-midi, donc la matinée passée, je parlais, et l'après-midi, nous avons analysé en petit groupe toutes ces phrases, sept ou huit phrases clés de la spiritualité de Saint Silouane, dont celle-là que lui a donnée le Seigneur lui-même. « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Ce serait long de le décortiquer avec vous. Nous pourrons le faire plus tard. Alors, le moine de 45 ans, donc Silouane, va considérer cette phrase comme une règle de vie intérieure, et d'autant plus riche pour lui que c'était Dieu lui-même qui la lui avait donnée. Et alors, que se passe-t-il ? Le démon va harceler avec plus d'intensité encore le moine, mais Silouane est maintenant sûr de la bonté de Dieu à son égard. Il continue sa lutte intérieure contre les pensées de découragement, de désespoir, contre les pensées de vanité, d'orgueil, et sans doute qu'elles devaient monter en lui, parce qu'il savait très bien que c'était le Christ qui lui avait donné cette phrase et qui l'enseignait intérieurement. Et alors ce furent 15 années de lutte pour que la vie intérieure du martyr Silouane, parce que c'est un martyr cela, sa vie se stabilisa et que diminuent enfin les attaques du malin. Donc, je le répète, il ressentait vivement la miséricorde de Dieu envers lui et sa prière s'élargit au-delà des limites de son monastère et au-delà des limites de la presqu'île de la Tosse. Elle s'élargit au monde entier et il souhaite que cette miséricorde, et il prie Dieu pour que sa miséricorde s'étende à tous les hommes, que tous connaissent Dieu et soient sauvés par lui. Et il considérait que l'amour du prochain était indissociable de l'amour de Dieu et que l'amour des ennemis était indissociable de l'amour du prochain. Et il disait, notre frère, c'est notre propre vie. Notre frère, c'est notre propre vie. Alors, tout précisément, hein, après, ne désespère pas, et notre frère, c'est notre propre vie, c'est une phrase que nous avons analysée en groupe, donc à l'archevêché catholique d'Albi, durant l'après-midi. Et à partir de ce moment-là, de cette vision du Christ, de ces paroles du Christ, la prière de Silouane va embrasser le monde entier, les vivants et les défunts. Alors, le moine, je reviens un petit peu sur la vie qu'il menait au monastère, il était donc responsable du grand moulin et il avait jusqu'à 200 ouvriers sous sa coupe. Sa coupe, non. Hein, vous comprenez, il a dirigé. Et il ne perdait pas un seul instant la prière. Il aimait ses ouvriers, il priait pour chacun d'eux, et il priait en particulier pour ceux qui étaient pères de famille, qui avaient laissé donc leur famille en Russie ou ailleurs. Et tout semblait marcher comme sur des roulettes, du moins extérieurement. Et afin de bénéficier de plus de solitude, tout de même, c'était une charge écrasante, quand même, 200 ouvriers. Il couchait, il dormait, je veux dire, le soir, dans l'entrepôt du moulin. Et là, ça ruina sa santé. Il eut des rhumatismes, des maux de tête et il s'alita. Nous sommes en 1938. Et là, son corps, déjà affaibli par la sèse, le manque de sommeil, et puis, j'allais dire, le travail, entre guillemets, de vie intérieure. C'est un travail, hein? J'espère que vous le comprenez. Il s'alita fortement. Et là, le 15 septembre, Silouane avait 72 ans. Il fut transporté à l'infirmerie du monastère et le lundi 19, il reçut l'onction des malades. Mais son état empira. Et là, un hiéromoine, un moine prêtre, commença l'office à la mère de Dieu pour le départ de l'âme de Silouane. Et le samedi 24 septembre 1938, entre 1h et 2h du matin, eh bien, Silouane s'endormit paisiblement. Je voudrais donner quelques mots, parce que la vie de Silouane, ce que je viens de dire, mais également son comportement, sont une école pour nous. Comment se comportait-il dans la vie, donc son attitude extérieure? Il était grand et fort, n'est-ce pas? Sans doute qu'au monastère, il n'avait pas une omelette de 50 œufs, hein, ni 3 litres de vodka. Non, ça, il avait dû l'abandonner. Silouane, au monastère, était doux et très avenant pour tous, et d'une grande tendresse. Il ne parlait jamais d'une manière ambiguë. Et merci. Et il ne se moquait de personne. Il ignorait la vulgarité, la dissipation. Il était très simple envers tous, sobre dans ses paroles, sans vouloir enseigner quiconque. On sentait qu'il priait pour chacun de ses interlocuteurs et chacun de ceux qui sortaient de chez lui sortaient apaisés, transformés en bien. Silouane n'eut pas de disciple, sauf celui que je vais nommer et qui s'appelle l'archimandrite Sophronie, le père Sophronie, peut-être en avez-vous entendu parler. Et les frères de Silouane, les moines, qui avaient vécu avec, diront le jour de sa mort ou quelque temps après, c'était un moine, sans rien de plus. Il n'avait rien vu. Quelques personnes, vers la fin de la vie de Silouane, venaient quand même chercher des conseils auprès de lui. L'acte de canonisation fut prononcé 49 ans après son départ, hein, par le patriarcat de Constantinople. Il fut donc prononcé le 26 novembre 1987, c'est pas loin, hein, et la date de sa fête fut fixée au 24 septembre, n'est-ce pas, de chaque année. C'est ce que nous faisons. L'œuvre de Saint Silouane, eh bien, elle est quasiment nulle. Saint Silouane n'a rien écrit. Alors, vous allez me dire, mais comment vous savez tout ça? Ben, c'est celui que j'ai cité, l'archimandrite Sophronie, qui a eu pendant 7 ans des entretiens réguliers avec le moine Silouane. Néanmoins, Silouane avait quelques livres et il écrivait en marge des pages certaines phrases qui ont été relevées par l'archimandrite Sophronie. Hein. Alors, ce sont des écrits épars, hein, comme on dit. C'est surtout Donc, l'archimandrite Sophronie, c'est l'archimandrite Sophronie, j'y reviendrai un petit peu si vous n'êtes pas trop fatigué, qui a écrit ce livre épais et sur donc, les entretiens qu'il a eus avec le Starizir, mais également sur l'expérience intérieure du Staret Silouane. Voilà. Je veux bien vous donner une phrase tout de même du Staret Silouane. Il répond ainsi à un moine, un de ses frères moines, qui lui disait « Pourquoi parles-tu tellement de Dieu ?» Alors le Staret lui répond « Mon âme aime le Seigneur. Et comment dissimulerai-je ce feu qui m'enflamme? Comment cacherai-je les largesses du Seigneur qui ont ravi mon âme? Comment oublierai-je les bienfaits du Seigneur par lesquels mon âme a connu Dieu? Comment pourrais-je ne pas parler de Dieu quand mon âme est devenue sa captive? Comment me tairai-je sur Dieu alors que jour et nuit, mon esprit brûle d'amour pour lui. Pour quelle raison, Père, n'est-ce pas ? Il répond à son frère. Pour quelle raison, Père, as-tu dit à mon âme, pourquoi parles-tu tellement de Dieu ? C'est que mon âme l'aime, et comment cacher l'amour du Seigneur pour moi ? Alors, on le voit, ces paroles du Staret sans fioriture. Il n'avait pas d'instruction, je vous ai dit, deux hivers à l'école de son village. Mais il a été enseigné durant les années précédentes, durant des années par Dieu lui-même, et surtout l'Esprit Saint. Il faudrait là aussi ouvrir ce... Mais je vous confierai quelques livres pour ceux qui en veulent. Alors, ces paroles coïncident exactement avec ce que vit, n'est-ce pas, le moine Silouane. Il dit ce qu'il est et il est ce qu'il dit. Alors, il a un double souci, vous voyez, de proclamer la miséricorde de Dieu envers lui, envers tous les hommes, sans exception. Et puis, il veut que tous les hommes soient sauvés, je me répète. C'est un leitmotiv chez le moine Silouane, que tous les hommes soient sauvés. J'aborde maintenant un petit peu, si vous n'êtes pas trop fatigué, donc son disciple, le seul qu'il a eu, l'archimandrite Sophronie. L'archimandrite Sophronie. C'était un Russe, il est arrivé au Mont Athos en 1925. Et à partir de 1931 jusqu'à 1938, la date du départ du moine Silouane, ils ont eu des entretiens donc pendant 7 ans. Et ce livre les contient. Hein. Qui était l'archimandrite Sophronie? Il est né à Moscou en 1896 d'une famille orthodoxe nombreuse. Et dans son jeune âge, à la différence du moine Silouane, l'archimandrite, celui qui deviendra l'archimandrite Sophronie, n'est-ce pas, se pose beaucoup de questions. Les grandes questions. De grandes questions le tourmentent. Le caractère tragique de l'existence humaine. Il faut comprendre que l'histoire d'alors, hein, c'était la révolution bolchevique qui allait commencer. Il devint lui-même officier, n'est-ce pas, dans l'armée, mais il n'alla jamais au front. Néanmoins, il fut par deux fois incarcéré par les bolcheviks. Alors, tout cela provoqua chez le jeune Sophronie un grand bouleversement intérieure, une véritable mort, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est, mort de Dieu, mort du genre humain, mort du monde. Et alors, il en tire deux leçons, le jeune Sophronie. La vanité de l'existence et la réalité de l'être infini. Alors, il passe, après tout un temps de sa vie, à flirter avec le mysticisme de l'extrême Orient, bouddhisme, etc. L'extrême Orient non chrétien. Et il s'adonne à une grande passion. Il a une grande passion, la peinture. Il étudie à l'École nationale des beaux-arts de Moscou. Et comme c'est la révolution bolchevique et qu'il ne se sent pas à l'aise, il décide d'émigrer. Il passe par l'Allemagne, l'Italie et parvient en France en 1922. Ce sont donc des hommes de notre temps. Hein. Et il expose ses œuvres au Salon d'automne à Paris et au Salon des Tuileries, mais intérieurement. Et ça rejoint beaucoup Siloade. Il n'est pas content de lui. Il n'est pas content de lui. Et un jour, celui que le jeune Sophronie avait abandonné se révèle à lui. Vous voyez, il y a chez lui aussi un chemin de Damas. Hein? Et cette expérience très profonde, Sophronie la traduira ainsi par un texte de la Bible. Il comprend que c'est Dieu qui lui dit « Je suis celui qui suis », n'est-ce pas, Moïse, dans Exode 3,14, « Chemin de Damas », je dis. Hein. Et il écrit à ce moment-là « Grand est le mot « je », J-E. Il désigne la personne, seule la personne vit réellement. Dieu est vivant. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes mots que le moine Siloane. On voit que là, il est sorti d'une famille et qu'il a fait des études. Hein, et il ajoute le contenu de cette vie et l'amour. Et voilà que le jeune Sophronie va de découverte en profondeur et il voit que Dieu a un visage, Jésus-Christ, qui est venu dans notre monde pour le salut de tout homme, qu'il s'est rendu semblable à tout homme et par lui, par le Christ, l'homme a la possibilité de devenir en tout semblable à Dieu. Et ça a été le fil rouge de la vie de l'archimandrite Sophronie. Alors, c'était donc une révélation de Dieu au jeune Sophronie. Et ça a pour but de montrer, de faire voir au jeune Sophronie son être intérieur, la profondeur de son péché, ses ténèbres intérieures. Et il parle de lui-même en disant « mon cadavre intérieur ». Alors il entre dans l'enfer du repentir. Hein. Et comme Pierre, après son reniement, il verse des larmes d'indignité, de honte, de désespoir. Nous arrivons à la veille de Pâques 1924. Le jeune Sophronie communie et là, Dieu le visite. Et c'est lui-même qui, dans un de ses ouvrages, donne cette date de la visite de Dieu qui lui donne de contempler la lumière incréée. Et cela a pour but d'accentuer, cette lumière a pour but d'accentuer le regard du jeune Sophronie sur son propre péché. Et donc cette contemplation de la lumière qui vient de Dieu, il n'aura de cesse de la poursuivre durant toute sa vie, et sa vie a été longue jusqu'à l'âge de mémoire, je pense que c'est 94-95 ans. Mais pour la plus grande gloire de Dieu, comme on dit, et le bonheur de ceux qui ont pu l'approcher. Alors, Pâques 1924 est donc un nœud dans la vie, un tournant dans la vie de notre jeune homme qui a 28 ans. Il se plonge dans la prière qu'il définit comme une vivante rencontre de notre personne créée avec la personne divine, ou les personnes divines. Alors, je passe rapidement sur son cheminement. Il est désireux de consacrer sa vie au Seigneur. Nous sommes l'année d'après, 1925. Qu'est-ce qui se passe à Paris? En 1925, s'ouvre l'Institut de théologie Saint-Serge, qui ouvre ses portes, et ses portes sont toujours ouvertes aujourd'hui. Il s'inscrit à cet institut, mais après quelques mois, il déchante. Et pourquoi? Il le dit lui-même, les études sont trop académiques. On y parle sur Dieu, autour de Dieu, mais pas de Dieu. Il a cette phrase, le christianisme n'est pas une doctrine, mais la vie. La connaissance spirituelle n'est pas un savoir, mais l'expérience dans l'existence de la communion avec Dieu. Il sait bien, le jeune Sophronie, il sait bien qu'il y a une nécessité d'une conscience, comme on dit, dogmatique, forte. Il le sait bien, il faut des conceptions justes, correctes au sujet du Christ, de ses mystères, de la Sainte Trinité. Mais les connaissances ne font pas tout. Lui, il veut l'expérience. Et c'est là, 1925, le jeune homme part pour le mont Athos. Il rejoint le monastère russe Saint-Pantaléimon, il est donc russe lui-même, et le monachisme, tout de suite pour lui, il y voit la vie céleste sur la terre, le cœur de l'Église, et c'est aussi ma pensée. Voilà pourquoi je dis toujours, allez, allons dans les monastères. Le plus proche pour nous, c'est Cantoque, bien sûr. Mais allons, j'allais dire nous ressourcer, pour utiliser un mot à la mode, et voir la vie des moines, leur confier nos prières, nos peines, nos péchés, et leur demander nos prières. Alors, donc, il est parti, il est devenu moine. Il dit que la vie, le monastère, c'est le cœur de l'Église. J'ai dit que c'était aussi ma conviction. Et très vite, le jeune novice reçoit la grâce de la prière incessante, la prière continuelle. Nous rejoignons Silouane, hein, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de moi, pécheur. Il est habité par cette prière et c'est le monde entier qu'il prend dans sa prière. Il connaît la perte de la grâce. Hein, vous savez, cette courbe du malade. Et il dit dans ses écrits qu'il suffit d'un rien pour perdre la grâce. Un mouvement d'orgueil, un repli sur soi. Et le combat s'installe dans l'âme du moine pour retrouver la grâce. Alors, vous connaissez un petit peu l'évolution de la vie spirituelle, si vous, enfin, ça vous dira quelque chose aux uns et aux autres. Dieu nous donne sa grâce, c'est l'appel, et ensuite il fait mine de nous abandonner afin que ce soit nous qui prenions les rênes librement, n'est-ce pas, de notre vie intérieure, et puis nous recouvrons la grâce. Trois temps, vous savez, hein, l'appel, l'illumination, hein, les ténèbres, et puis l'espérance en Dieu seul. Vous voyez, c'est cette trilogie que je ne vais pas développer, mais un jour ou l'autre. Alors nous arrivons en 1930-31, et là, le moine Sophronie rencontre le moine Silouane. Et leurs entretiens donc dureront 8 années, et le moine Silouane, Starets Silouane, livre au moine Sophronie toute son expérience spirituelle d'une vie entière, quasiment. Hein. Et en 1941, le père Sophronie est ordonné prêtre. Il devient confesseur d'un ou plusieurs monastères, parce que le mont Athos, vous le savez, hein, il regroupe plusieurs monastères, plusieurs ermitages, plusieurs petits skites, hein, comme on dit, petites maisons. Et en 1943, la santé du père Sophronie s'affaiblit, dégénère, et les conditions sont rudes là-bas, au mont Athos, comme pour tout moine, hein, au monial. Hein. Il ressent donc la nécessité de faire connaître au monde l'expérience spirituelle du moine Silouane, qui est décédé, hein, en 1938. Donc, il y a 3 ans qu'il est décédé, et donc le jeune moine Sophronie, père Sophronie, désire que le monde entier connaisse cette expérience spirituelle du Starets. Et c'est donc, il arrive en France, comme j'ai dit tout à l'heure, et il publie ce livre en 1948. Il publie ce livre qui donne donc une analyse de la pensée et de l'évolution intérieure du Starets Silouane. Starets Silouane, moine du mont Athos, vie, doctrine et écrit. Ça, c'est le premier livre. Il a été réédité en 2010, l'année dernière, un peu plus beau que celui-là. Alors, il vit un moment à Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris, dans l'Essonne, et là, plusieurs personnes se rassemblent donc autour du père Sophronie, et il désirerait bien les réunir, et il ne trouve pas de lieu en France qui lui permette de développer cette communauté naissante. Et alors, on lui offre en Angleterre un presbytère désaffecté dans l'Essex, au lieu dit Maldon, et le monastère Saint-Jean-Baptiste est né. Là, le père Sophronie va fonder une famille spirituelle où le respect de la personne, de chaque personne, prime sur la règle. Une volonté de vivre ensemble dans l'esprit du Christ qui crée l'unité de la communauté. L'ascèse n'est pas un but en soi, mais un moyen pour nous libérer du péché, purifier notre cœur, recevoir la grâce et conformer notre volonté à celle de Dieu. Il n'y a pas de règle à Maldon, mais des horaires. L'horaire du repas, l'horaire des travaux, l'horaire de la prière, essentiellement la divine liturgie et puis l'invocation du nom de Jésus. J'en parlerai un tout petit peu après. Si vous n'êtes pas trop fatigué, j'avais dit 30 minutes, je les ai atteintes. Alors, chaque jour, ou à peu près, jusqu'à son dernier jour, Père Sophronie, l'archimandrite Sophronie, donnait un enseignement à ses moines et à ses moniales. Et cet enseignement, comme une catéchèse dans une paroisse, ça soude, n'est-ce pas? Ça soude. Voilà. Donc, une vie basée sur l'enseignement essentiellement du Staret Siloane. Hein. Le père Sophronie ne faisait que répéter le Staret Siloane, la vie intérieure du père Siloane, du Staret Siloane. Vie simple, vie eucharistique, vie évangélique. Je pense que ça n'a pas évolué beaucoup. Un millier d'hôtes à peu près passent annuellement au monastère de Maldon et il y a beaucoup, beaucoup de noms orthodoxes. Peut-être parmi vous, quelqu'un y est allé? Non? Oui, Patricia? J'ai noté, mais peut-être que ça a évolué aussi, qu'il y a une trentaine de moines environ et moniales. Ils sont ensemble de 12 à 15 nationalités, à peu près. Et là, le père Sophronie, jusqu'à sa mort, va recevoir des visiteurs et écrire son autobiographie. Je n'ai pas apporté des ouvrages de l'archimandrite Sophronie. Son autobiographie s'intitule « Voir Dieu tel qu'il est ». Vous voyez, hein, l'expérience de Dieu, faire l'expérience, ne pas s'en tenir aux parlottes comme je le fais actuellement. Alors, je vous livre deux petits paragraphes de ce livre, donc, parce que je ne vais pas aujourd'hui parler de l'archimandrite. Ma lettre de mission, n'est-ce pas, n'était que de vous parler de... J'ai reçu la bénédiction de l'évêque rien que pour vous parler de Siloane. Et là, déjà, je déborde, enfin, pas trop.
Sans béni, oui.
Ah, c'est béni. Bon, alors quand même, je vous donne ces deux petites phrases tirées du livre de l'autobiographie de l'archimandrite Sophronie. Hein? On ne se trompera pas en disant que le christianisme n'est pas quelque doctrine philosophique, mais proprement une vie. Vie et amour jusqu'au bout. Jusqu'à la haine de soi. Ça demanderait d'en parler longtemps. C'est cela le grand mystère de la piété, porté à notre connaissance par la révélation en Christ et présenté dans sa parole. Il a été rendu, ce mystère donc, a été rendu manifeste par l'exemple du Christ, qui s'est laissé toucher. Et pourtant, il reste, ce mystère, à tout jamais impénétrable, insondable, indescriptible. Il s'est laissé toucher, cela fait allusion à la première phrase de l'épître de Saint Jean, hein, vous vous souvenez, hein, ce que nous avons vu de nos yeux, touché, etc. Nous vous l'annonçons. La deuxième phrase de Père Sophronie est celle-ci. Le Staret Siloane exprimait de diverses manières toujours la même idée. Dieu et tout ce qui est céleste ne peut être connu que par le Saint-Esprit. Dieu et tout ce qui est céleste ne peut être connu que par le Saint-Esprit. Et c'est par le don du Saint-Esprit qui procède du Père, que dans notre Église, nous connaissons existentiellement, par une expérience vécue, la kénose, l'abaissement, du Fils dans l'acte de l'incarnation, dans le désert, dans la prière de Gethsémani et sur le Golgotha. Le Saint-Esprit nous montre la kénose, l'abaissement, qui nous attend. Nous aussi, dans notre mort. Voyez, Est-ce que je dois m'arrêter là? Non, je vais essayer parce que je vous laisserai dire, de poser quelques questions. Je n'ai pas la science infuse, mais j'aime beaucoup Saint-Silouane et l'archimandrite Sophronie. Je voudrais résumer ce que je viens un petit peu de vous dire. J'ai dépassé la demi-heure. Je vous ai menti, donc, puisque je vous avais promis à certains une demi-heure. Nous restons marqués, vous voyez, après avoir parlé un peu de Silouane, Saint-Silouane, nous restons marqués, je crois, par l'exemple de ceux et celles qui nous ont entourés durant notre enfance. Et chacun, chacune de vous peut peut-être faire allusion à un père, une mère, un prêtre. Saint-Silouane, vous l'avez vu tout à l'heure, il a été marqué par son père, ce qui lui faisait dire, hein, je me répète, lorsqu'il était au mont Athos, il disait de son père, « Je ne suis pas parvenu à la mesure de mon père. » Et moi aussi, c'est mon père qui m'a marqué, et son frère, mon oncle. Deuxièmement, Silouane était attentif, je reviens à Silouane, hein, était attentif à ce qui se disait autour de lui, mais surtout à ce qui se passait en lui. Il savait que Dieu lui parlait à travers la parole d'autrui, mais aussi à travers la prière, les songes. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Troisième chose, ces flashs divins avaient pour but de ramener Silouane dans le droit chemin ou dans l'approfondissement de sa vie intérieure. Même si, lorsqu'il était adolescent, jeune homme, il oubliait ce que Dieu lui disait, hein, dans la prière, ou, hein, comme nous. Nous entendons bien une voix intérieure souvent, mais nous l'oublions. Quatrièmement, Dieu est fidèle et tenace. Dieu est fidèle et tenace. Nous l'avons vu dans cette vie de Silouane. Il revient toujours à la charge. Hein? Je ne suis pas content de ce que tu fais. Nous avons cette voix intérieure si nous ne la chassons pas. Alors, petit à petit, donc, le Seigneur a amené Saint-Silouane au mont Athos. Comme nous, il nous a, pour les Français du moins, comme moi, il nous a amené à l'orthodoxie, par exemple. Et là, au mont Athos, le Seigneur le gratifie, c'est ma cinquième pensée, le gratifie de grandes grâces. Prière continuelle. C'est pas rien, la prière continuelle. Hein, demander au moine émonial, hein, c'est un bonheur aussi. Mais Saint-Silouane, j'allais dire non pas en paiement de cette prière continuelle, non. Il va mettre toute son énergie humaine, corporelle, toute sa volonté à adhérer au vouloir divin, à mener un dialogue continuel avec son Dieu. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère. Et ce « ne désespère pas », c'est un coup de collier permanent, quotidien, plus que quotidien, pour suivre Dieu pas à pas. C'est un coup de collier, mais qui n'est pas forcé. De même, nous, hein, nous venons volontiers à l'église le dimanche, nos prières chez nous, n'est-ce pas, devant les saintes icônes, nous les faisons bien volontiers parce que nous savons que Dieu nous aime et nous avons touché cet amour de Dieu comme Silouane l'avait touché. Néanmoins, il se considère jusqu'à la fin de sa vie comme un moine indigne. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Et sixième chose, il n'en reste plus qu'une après. Le moine Silouane nous montre la présence de l'Esprit Saint, son rôle dans l'œuvre de nos vies, dans la marche de notre existence, dans l'existence de l'Église et du monde. Et je voudrais terminer, ce sera le septième point, par une petite historiette racontée par Silouane lui-même. Hein. Et la date, c'est daté, vous voyez. Et pour nous, c'est très riche parce que ce sont des années qui nous sont proches. Il s'agit du 1er juillet 1932. Il dit, Starrett Silouane, « Je reçus la visite du père Pantaleïmon. Il venait du vieux Russicon. » C'est un autre monastère sur la Sainte-Montagne. « Je lui demandais comment il allait. » Et avec un visage radieux, le père Pantaleïmon lui répondit « Je suis très heureux. » Silouane, « Pourquoi donc es-tu si heureux ?»« Tous les frères m'aiment. » « Et pourquoi t'aime-t-il ? » « J'obéis à tout le monde, dit-il, à n'importe qui, et où que l'on m'envoie. » Et j'ai pensé, alors c'est Silouane qui parle toujours, « Aisé est la voie qui mène au royaume de Dieu. » Père Pantaleïmon a trouvé le repos par l'obéissance qu'il exerce par amour de Dieu, et c'est pourquoi son âme est dans la paix. Je vais vous confier quelque chose, je le confie devant l'évêque Marc. Vous m'avez accueilli dans cette paroisse et j'y suis heureux. J'y suis heureux et je sais bien que c'est là aussi une grâce de Dieu. Voilà ce que je voulais dire, j'en termine là, et si quelqu'un avait, je dis encore quelques choses, j'ai apporté là 4-5 livres, donc celui de l'archimandrite sur la vie de Saint Silouane, donc les entretiens qu'il a eus, l'archimandrite, avec ici un petit livre pour ceux qui ont de la peine à lire, je veux dire qui n'ont pas le temps, et quelques écrits, quelques petits écrits sur Saint Silouane. Là, c'est le même livre, c'est un Maxime Égère, c'est Suisse, oui, je suis obligé. Bon, diacre, il était diacre, bravo, on peut le dire. Il a abandonné le diaconat parce qu'il a trouvé une nouvelle femme. Mais il a écrit là un beau petit livre fait de phrases tirées des livres de Silouane. Bien. Et ensuite, j'ai un livre. Tout cela, c'est à passer à vous, dans la mesure où vous êtes affamé. Hein. Saint Silouane de la Tosse par Jean-Claude Larcher, qui est un théologien orthodoxe qui s'adonne surtout, mais pas exclusivement, à la patrologie au père de l'Église. Et ici, un petit ouvrage fait par les moines du monastère orthodoxe de la Dalmerie dans l'Hérault, monastère sous l'homme fort grec. Ces ouvrages sont pour vous, il y en a 5. Maintenant, si quelqu'un voulait que je précise telle ou telle chose, je veux bien, sauf si vous êtes vraiment fatigué.
Emmanuel, je crois qu'il faudrait que absolument vous prépariez la deuxième conférence sur la doctrine de Saint-Silouane.
Oui.
L'une doit être liée à l'autre, je crois que c'est très important.
Oui, alors là, effectivement, j'ai parlé, vous l'avez vu, de son cheminement humain, et je faisais quelques allusions, la courbe de malade, mais il y a toute une évolution intérieure, et les écrits, surtout, de l'archimandrite Sophronie, décrivent, si vous voulez, cette expérience. Comment l'Esprit Saint, parce que c'est lui, a travaillé l'âme, l'intérieur du moine Silouane.